Il est 8h.
Comment je peux expliquer aux Françaises et aux Français que nous n'avons pas rendu la vaccination obligatoire
d'ailleurs,
et que nous rendrions un passeport vaccinal obligatoire.
C'est le débat du moment. Faut-il être vacciné pour avoir droit au monde d'après? Celui sans masque, celui où on voyage, où on se fait la bise en arrivant au restaurant. Jean Castex n'y est pas favorable, on vient de l'entendre. Mais c'est aussi une question à l'échelle de l'Europe, puisque les frontières sont en jeu. Nous appelons Bruxelles dans une seconde. Comment fait un œnologue qui a perdu l'odorat? Eh bien, il tente une rééducation olfactive. Reportage à Bordeaux où des étudiants de la filière vin ont un petit souci. À cause du Covid, ils confondent l'odeur des fruits frais avec celle du pain grillé. Dans ce journal, un ancien Premier ministre de 91 ans au tribunal pour une affaire vieille de plus d'un quart de siècle, Édouard Balladur et la campagne de 95. Et puis le dossier d'Europe 1, qui en veut aux antennes télécoms, gilets jaunes radicaux, activistes anarchistes, les dégradations de pylônes 5G ou de télé ou de radio se succèdent. Nos spécialistes technologie et police-justice ont enquêté.
Juste après ce journal, dans un contexte des plus incertains, l'industrie du tourisme particulièrement frappée en France. Les vacances scolaires en vue, le débat sur le passeport sanitaire aussi. Sébastien Bazin, PDG du groupe hôtelier Accor, répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le paradoxe a été souligné et commenté. Non seulement les Français sont depuis peu favorables majoritairement au vaccin, ce qui est déjà une grosse évolution en quelques semaines, mais les voilà même d'accord avec une obligation d'être vaccinés pour certaines activités, prendre l'avion, se rendre en maison de retraite ou à l'hôpital, et même prendre le train ou le métro, selon un sondage IFOP publié dimanche.
Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
En ligne de Bruxelles pour Europe 1, la Commission européenne fera des recommandations sur cette idée d'un passeport vaccinal, comme on dit, mais ça pose beaucoup de questions.
Oui, et d'abord des questions techniques. Si l'idée c'est de créer un document numérique, il faut que sa validité soit vérifiable partout en Europe via une plateforme commune. Il faut donc des garanties pour la protection de nos informations médicales qui sont sensibles. Encore plus important, il y a un risque de discrimination pour les personnes non vaccinées. Il inquiète le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic.
La vaccination se fait sur la base du volontariat. Nous allons avoir beaucoup de gens qui ne pourront pas être vaccinés pour des raisons médicales. D'autres ne voudront tout simplement pas être vaccinés. Nous allons prendre toutes les précautions pour être sûrs qu'ils ne sont pas traités de façon différente et que leurs droits ne sont pas restreints.
La solution, ça pourrait être de donner le choix aux voyageurs, présenter un certificat de vaccination ou un test négatif. Enfin, il y a encore des incertitudes scientifiques. Est-ce que quand on est vacciné, on est sûr qu'on ne transmet plus le virus? Bref, malgré l'enthousiasme de la Grèce, qui pense déjà à sauver sa saison touristique, beaucoup de pays, dont la France et l'Allemagne, pensent qu'il faut ouvrir le débat, mais pas se précipiter. Si passeport vaccinal européen il y a, ça ne sera sans doute pas avant l'été.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, et on note que c'est la Grèce, pays touristique s'il en a, qui pousse pour un passeport vaccinal, car l'enjeu est bien celui-là, le retour à la vie normale et le redémarrage du tourisme.
Sur la vaccination en France, Jean Castex a promis hier soir une nouvelle accélération, notamment dans les EHPAD. 430 000 injections dans les deux semaines à venir, selon le Premier ministre, alors qu'il n'y en a eu que 100 000 dans ces établissements depuis le début de la campagne.
Et on en vient donc à cette question vertigineuse. Peut-on encore devenir œnologue quand on a perdu l'odorat?
Ben oui, ça vous est peut-être arrivé si vous avez eu le Covid, une anosmie souvent accompagnée d'agueusie, la perte du goût. Pas très grave quand ça revient vite, plus gênant quand ça dure et quand votre futur métier en dépend. À l'Institut de la vigne et du vin à Bordeaux, où s'est rendu Stéphane Place, 5 étudiants sont pris en charge par un programme de rééducation.
C'est fin septembre que le Covid est venu priver Amélie du goût et de l'odorat. Très progressivement, cette étudiante de 22 ans en première année d'œnologie, ici à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, récupère ce sens indispensable, mais pas comme avant, il demeure parasité.
Si on prend l'exemple d'un vin rouge, une personne normale pourrait sentir des odeurs de boisé, des fruits, fruits frais, fruits cuits, etc. Et moi aujourd'hui, ces odeurs sont masquées par notamment une odeur parasite, comme un petit peu du pain grillé. C'est pas des très bonnes odeurs, on va dire.
D'où ce protocole de réapprentissage imaginé ici à l'Institut, avec notamment un kit de rééducation à base d'huiles essentielles. Laurence Génie, directrice adjointe de l'ISVV.
Nous avons développé des petits stylos qui contiennent ces odorants. Un odorant fleur, un odorant de la famille des fruits, un odorant de la famille des épices et un odorant de la famille des herbes aromatiques. Tous les jours, ils doivent réaliser un exercice de flairage et répondre à différentes questions.
Sans oublier des exercices d'imagerie olfactive mentale, une méthode que l'Institut des sciences de la vigne et du vin détaille et met gratuitement à disposition de tous sur son site internet.
C'est une figure de la Ve République qui est jugée à partir d'aujourd'hui à Paris.
Une figure, car on parle là d'un ancien Premier ministre, Édouard Balladur, 91 ans, aux côtés de François Léotard, 78 ans, ancien ministre de la Défense, et ce pour des soupçons de financement occulte de la campagne présidentielle de 95, en marge de la tentaculaire affaire Karachi.
Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
C'est la Cour de justice qui se penche sur les faits.
Oui, c'est le volet ministériel d'une affaire qui a valu à 6 autres protagonistes d'être condamnés à des peines de 2 à 5 ans de prison, mais les deux anciens ministres ne peuvent être jugés que par cette cour particulière, la Cour de justice de la République, seule habilitée à juger des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Quant aux faits, ils remontent aux années 90 dans le cadre de contrats d'armement passés entre la France et l'Arabie Saoudite, et les magistrats soupçonnent qu'une partie des rétrocommissions, 10 millions de francs à l'époque, est pu servir à alimenter les caisses de campagne d'Édouard Balladur. L'un de ses avocats, maître Félix de Bellois, affirme que ce dernier a hâte de s'expliquer.
Ça fait 10 ans maintenant, plus de 10 ans qu'il subit ces accusations, qui sont des accusations très graves, très lourdes. Il est grand temps qu'il puisse enfin s'en expliquer et surtout obtenir une relaxe et être innocenté. Moi, je suis admiratif de sa ténacité et de sa détermination.
À 91 ans, Édouard Balladur a annoncé qu'il serait présent pour les moments importants de cette audience.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Autre procès qui commence aujourd'hui, celui de Georges Tron, maire de Draveil, dans l'Essonne, ancien secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy. Affaire de viol et d'agression sexuelle pour laquelle il avait été acquitté en 2018, tout comme son ancienne adjointe à la culture, Brigitte Gruel. Mais le parquet général avait fait appel.
Aux États-Unis, un désaccord au sommet entre Donald Trump et Joe Biden sur l'ouverture des frontières américaines.
Oui, l'administration sortante l'avait annoncé cette réouverture pour le 26 janvier, mais l'équipe du futur président, qui sera investi demain, affirme que, vu le contexte sanitaire, ce n'est pas le moment. C'était lundi dernier, près de Limoges, un collectif anti-5G a incendié une antenne relais. Une semaine plus tard, le signal n'est toujours pas totalement rétabli et 1,5 million d'habitants ont des problèmes pour capter le réseau, la radio, la télé, parfois les trois en même temps. Et c'est loin d'être la première fois.
C'est le dossier d'Europe 1 ce matin avec Guillaume Biais, chef du service police-justice, et Clément Le Saffre, spécialiste nouvelles technologies. Bonjour à tous les deux. Un mot d'abord avec vous, Clément. Les actes de vandalisme contre des antennes, c'est fréquent ?
Ah oui, selon les informations que nous avons pu recueillir, il y a eu 70 dégradations d'antennes l'an dernier en France, essentiellement au printemps. Tous les opérateurs en sont victimes. Et même s'il y a 80 000 antennes sur le territoire, ça fait quand même une attaque tous les 5 jours.
Alors Guillaume Biais, vous avez enquêté sur les profils de ceux qui s'attaquent aux antennes. Qui sont-ils ?
Eh bien, ce sont des contestataires hein, de tous âges, mais pas tous issus du même mouvement. Vous avez d'abord les anti-5G qui détruisaient les antennes dès le printemps dernier, avant même que le réseau soit déployé, parce qu'ils pensent que la 5G nuit à l'environnement, à la santé, aux animaux, ou qu'elle contribue à propager le Covid, thèse complotiste. Il y a aussi les gilets jaunes radicaux et les activistes anarcho-autonomes. Ils sont militants anti-réseau, anti-médias, contre une soi-disant surveillance généralisée. Certains le revendiquent et diffusent même des conseils sur Internet sur la manière de détruire une antenne. Et puis il y a ceux un peu plus à la marge qui agissent par bêtise, par mimétisme ou même sous l'effet de l'alcool, figurez-vous. Dans la moitié des enquêtes, il y a déjà eu des interpellations et plusieurs condamnations, jusqu'à 4 ans de prison ferme infligées l'été dernier par le tribunal de Lons-le-Saunier.
Clément Le Saffre, ces dégradations d'antennes, elles ont des conséquences directes pour nous.
Oui, des conséquences nombreuses et surtout très concrètes. Je vais prendre un exemple. Début décembre, une antenne a été incendiée à Marseille. 3,5 millions de personnes ont été subitement privées de réseau mobile, de radio et télé. Là, on l'a dit, c'est 1,5 million près de Limoges. En fait, les réparations d'antennes sont très complexes. Il faut d'abord rétablir partiellement le signal. Ça veut dire qu'on ne capte pas très bien, ni partout dans la région. Ça, c'est temporaire, ça dure quelques jours. Mais pour un retour à la normale, ça demande parfois des semaines, voire des mois.
Et on imagine que tout ça a forcément un coût.
Oui, installer une antenne coûte entre 100 et 200 000 euros. Si l'incendie détruit tout le site, il faut reconstruire en partant de zéro. Et comme me l'a expliqué Nicolas Guérin, le président de la Fédération française des télécoms, au-delà du coût, ces réparations empiètent sur le déploiement du réseau mobile.
Ce qui est embêtant aussi dans tout ça, c'est que toutes les ressources qu'on met sur ces réparations, elles sont détournées de l'amélioration de la qualité de service et de l'extension de la couverture. Vous savez qu'il y a une impatience de nos concitoyens aussi en ce moment sur les zones blanches, les couvertures de zones blanches. Quand vous devez réparer un site qui a déjà été construit, c'est autant de personnes qui sont détournées de cette couverture des zones blanches.
Clément, est-ce que les opérateurs, avec toutes ces dégradations qui se succèdent, est-ce qu'ils travaillent pour tenter d'éviter des nouvelles destructions ou agressions, entre guillemets ?
Bah, ils sont en tout cas très préoccupés par ces attaques. Il y a un culte du secret autour des antennes. J'ai pu visiter, moi, un site 5G il y a quelques semaines, mais à la stricte condition de ne pas révéler son emplacement. Dans le climat de défiance actuel envers la 5G, les opérateurs ne prennent aucun risque. Alors, selon nos informations, les opérateurs, les gestionnaires d'antennes et les services de police travaillent sous l'égide du ministère de l'Intérieur pour renforcer la coopération entre tous ces acteurs. Mais un opérateur nous le confie, on peut difficilement faire plus. Les attaques sont par nature imprévisibles.
Qui en veut aux antennes 5G ? Le dossier d'Europe, hein, signé Guillaume Bié et Clément Le Saffre. Merci beaucoup à tous les deux.
Cette information, en bref, le journal L'Équipe ne paraît toujours pas aujourd'hui. La grève des salariés continue contre un plan de suppression d'une cinquantaine de postes. On en est au 11e jour d'affilée sans parution du quotidien sportif.
Que serait le cinéma français sans les coups de gueule de Jean-Pierre Bacri, l'acteur et scénariste mort hier à 69 ans ?
Oui, ceux qui connaissaient personnellement Jean-Pierre Bacri le disent, derrière cette furieuse tendance à râler à l'écran, se cachait un homme d'une gentillesse fini dans la vraie vie. L'annonce de sa mort hier d'un cancer à 69 ans a ébranlé ses camarades du cinéma français.
Notre tristesse est immense, disent Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisateurs du Sens de la fête. Christian Clavier regrette sa grande culture et sa grande intelligence. Nathalie Baye évoque un génial, un merveilleux Jean-Pierre Bacri.
Et finalement, la meilleure façon de lui rendre hommage, bah c'est peut-être tout simplement de l'entendre.
Et Arlette, elle est là-haut ?
Non, elle n'est pas là, Arlette, figure-toi. Qu'est-ce qu'elle fout encore, ça ? Mais 8h moins quart, ça continue. Et madame est toujours pas rentrée. Tout ça pourquoi ? Pour bavasser avec sa copine, comme d'habitude.
C'est beau l'amour quand même, hein ?
Quoi ? C'est beau l'amour ?
Bah la façon dont tu parles de ta femme, c'est beau. On sent toute la tendresse, toute la compréhension.
Mais qu'est-ce que tu connais, toi ? Tu vis avec quelqu'un ? Quand tu vivras avec quelqu'un, depuis 15 ans, tu viendras me voir, puis on en reparlera de la compréhension. Tu vas trop au cinéma, toi.
Tu vas trop au cinéma, disait Jean-Pierre Bacri à Agnès Jaoui dans Un air de famille. Bon, on aimerait bien aller tout court, hein, au cinéma. Et revoir Bacri sur grand écran.
Merci François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. 8h12.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On va évoquer ce matin un secteur malheureusement en grande souffrance. L'hôtellerie, les touristes ne seront pas de retour de sitôt en France, mais des initiatives sont prises pour imaginer la sortie de crise. Oui, parce qu'un jour, elle viendra. Et je reçois ce matin le PDG du premier groupe hôtelier d'Europe, Sébastien Bazin, PDG du groupe Accor.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1. Lors de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Sébastien Bazin, PDG du groupe Accor.
Bienvenue à vous et bonjour Sébastien Bazin.
Bonjour.
Le groupe Accor, c'est près de 5000 établissements dans plus de 100 pays, une large gamme d'hôtels. Et si je devais tous les citer, je crois qu'on passerait l'entretien à le faire. Mais il y a aussi, je tiens à le préciser, 300 000 collaborateurs. Tout d'abord, quelle est la proportion de vos hôtels ouverts à l'heure actuelle en France ?
Ben en fait, énormément. Plus de 90%. Alors en France, 80%. Enfin, ils sont tous, 80% sont ouverts. Mais ils ne fonctionnent pas très très bien. Mais les propriétaires et les collaborateurs sont là. Alors ils ne sont pas tous là, parce que beaucoup sont en chômage partiel. Mais il y a un petit point d'honneur de continuer à pouvoir accueillir le monde du travail. Ce sont les artisans, c'est la construction, le bâtiment, c'est peut-être le SAMU social. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont besoin d'être hébergés. C'est pas ça qui nous fait vivre. Mais c'est important qu'on reste ouvert.
Il vous a été beaucoup demandé dans l'hôtellerie, comme d'ailleurs de nombreux autres secteurs, beaucoup d'agilité, de capacité d'adaptation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une visibilité, un horizon sur la suite qui vous a été donnée par le gouvernement ?
Alors, ça dépend des pays. Par le gouvernement français, notre horizon, il est... Non, il n'est pas clair du tout. J'ai un sentiment de rien contrôler, ce qui m'agace prodigieusement. Maintenant, on voit bien que le vaccin a un effet colossal sur le moral, l'énergie, et puis probablement la possibilité de voyager. Donc je n'attends qu'une seule chose, c'est que ce vaccin se déploie en France. Maintenant, je suis un éternel optimiste, donc on va avoir un bon été.
Un optimisme et qui a l'impression de ne rien contrôler. Est-ce que vous êtes le seul ? Est-ce que le gouvernement navigue à vue aussi ?
J'espère pas. Est-ce que Accor navigue à vue ? Non, franchement non, parce qu'en même moment où on a peu ou pas de clients, on se remet en cause, on essaie de se repositionner, on réfléchit à d'autres métiers. Donc le gouvernement est dans l'urgence, Accor on est moins dans l'urgence. On sait bien que le métier va revenir, on sait bien que mes collaborateurs vont revenir, et on sait bien que le monde de demain sera différent. Donc autant s'y préparer maintenant. On a ce temps d'attente là qui n'est pas aussi négatif que ça, dans la réflexion j'entends. Mais j'ai besoin d'action et j'ai besoin de retrouver tout le monde.
Oui, vous avez besoin d'action et vous avez mis en place des protocoles sanitaires très stricts, hein, mais, comme dans d'autres secteurs.
Et ils ont formidablement marché. Et les restaurants et les hôtels, il n'y a pas eu de cluster.
Pas de foyer de contamination.
Non, il n'y a pas eu de foyer. Ouais. Donc ça veut dire que nous avons été irresponsables et professionnels. Ça veut donc dire qu'il faut nous faire confiance.
Davantage donc.
Bah, le monde de la montagne, je ne sais pas quelle décision va être prise par les ministres concernés.
Je crois que c'est difficile d'être optimiste.
Mais oui, mais on a tort. On a tort parce que quand j'entends qu'il faut mettre le sanitaire avant l'économique, je respecte ça, c'est une décision politique, je ne suis pas un politique. Mais enfin, le sanitaire, c'est aussi le moral, l'énergie des Français. Et là, on en perd beaucoup d'énergie, il y a une espèce de sentiment de petite dépression. Faisons très attention, hein. Il va falloir qu'on prenne ce risque supplémentaire pour que les gens se remettent à aimer et à faire ce qu'ils font dans la vie, c'est-à-dire travailler.
C'est important ce que vous dites, parce que vous avez l'impression que notre société est mue aujourd'hui, dirigée peut-être un peu par la peur, et on sait que la peur c'est quand même le pire ennemi de l'initiative, de la prise d'initiative.
Je pense qu'il y a un équilibre entre risque, audace et économique, qui fait que je n'ai pas probablement le même prisme que ceux qui dirigent, mais je ne suis pas à leur place. Mais le professionnel de la montagne, ils ont raison de dire faites-nous confiance, car ils sont responsables. Et on l'a démontré, nous, depuis 9 mois. Donc, ce regain d'énergie pour ceux qui travaillent à la montagne, il est tout aussi important que de s'occuper des gens qui sont malades.
Vous prenez des décisions évidemment très difficiles, Sébastien Bazin, à la tête de votre groupe, notamment les suppressions de postes. En France, il n'y avait pas d'autre choix, pas de possibilité de les garder en chômage partiel en attendant que la reprise arrive ?
Alors, le chômage partiel, on peut le garder sur le chômage de longue durée avec la PLD qui a été mise par le gouvernement, qui est une très bonne, dans nos hôtels, parce qu'on sait très bien que ça va repartir. Et donc, les collaborateurs dans les hôtels, on les met en APLD, donc en chômage partiel de longue durée. Dans les sièges, malheureusement, notre économie a été tellement bouleversée que nous avons enlevé des strates de décision. Il y avait des missions qui, malheureusement, demain, ne seront plus nécessaires. Donc non, c'était malheureusement indispensable si on veut survivre, enfin si on veut assurer la pérennité du groupe.
Et malgré tout, vous restez confiant, alors optimiste, je ne sais pas, vous le dites, mais confiant sur la suite, sur le retour, sur la confiance dans les hôtels, l'envie de fréquenter aujourd'hui les hôtels, demain mais plutôt.
Mais je suis confiant parce que l'homme, enfin la personne humaine n'a pas changé. Et je pense même que ces 9 mois ont été tellement durs pour chacun d'entre nous que jamais nous n'avons eu autant d'envie, de besoin que de sortir de, c'est même pas une zone de confort, de sortir de cette espèce de détresse. Et on l'a vu au mois de juillet et août de l'année dernière, il y a à peine 5 mois, jamais nous n'avons eu un été aussi formidable en France, avec des Français qui ont été découverts leur pays, qui étaient là, présents, qui étaient dans les restaurants. Nous, on a assuré le contrôle sanitaire. Franchement, ça va revenir probablement beaucoup plus vite que ce que les gens attendent, notamment dans le loisir. Clientèle d'affaires internationales, les outils digitaux, les Zoom,
évidemment,
les Webex.
Le télétravail va être privilégié par certaines boîtes qui vont avoir tendance à ne pas envoyer leurs collaborateurs à l'étranger, c'est ça ?
Alors, ce qui va être les voyages internationaux inter-entreprises, c'est-à-dire quelqu'un qui part de mon siège à Paris pour aller voir un collaborateur d'accord à Singapour, même moi, je pense qu'une fois sur trois, je vais lui dire, écoute, tu es très gentil, mais tu vas d'abord le faire par Zoom. Quand il s'agit de faire un voyage pour aller conquérir un client, à ce moment-là, je pense que ces entreprises ont bien sûr laissé leurs collaborateurs voyager. Donc, vous allez perdre une partie de ces voyages internes. Mais le télétravail, franchement, c'est pour nous aubaine.
Les chambres d'hôtel vont devenir peut-être des nouveaux espaces
mais
de
les
télétravail.
Chambres d'hôtel, mais les lobbies d'hôtel, les bars d'hôtel, les salles de réunion, on va enfin pouvoir accueillir des dizaines de millions de gens dans le monde qui, pour beaucoup d'entre eux, vont revenir 2-3 fois par semaine à leur siège et 2-3 fois par semaine ne veulent plus retourner au siège pour économiser 90 minutes de transport.
De temps, évidemment,
mais qui, pour autant, ne veulent pas rester chez eux. Et donc, on va enfin faire quelque chose que j'adore faire depuis 7 ans. Comment accueillir les gens qui sont proches de nos hôtels ? Eh bien, ceux qui ont besoin de travailler à 10-15 minutes de chez eux, à pied ou en vélo, peuvent venir dans une démarche du groupe Accor. On va les accueillir et on va les identifier. Ils pourront bénéficier de l'intégralité des espaces, du Wi-Fi, des toilettes, du bar, de la restauration. Et pour nous, c'est notre métier qu'on accueille un client étranger ou d'une autre ville ou quelqu'un qui vient de la rue d'à côté. Il est aussi le bienvenu que celui qui vient de très loin.
Alors, soit le client étranger, soit le travailleur à côté, soit aussi les étudiants. Sébastien Bazin, vous allez mettre à disposition des hôtels, des chambres pour les étudiants avec la région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse. C'est très important. On parle beaucoup, évidemment, de cette précarité aujourd'hui qui enferme ces jeunes.
Je pense que la génération sacrifiée, pour tous d'entre nous qui ont des enfants qui sont entre 15 ans et 22 ans, c'est atroce pour eux. Ils ont l'impression de perdre une année. Ils sont pour beaucoup d'entre eux dans un espace qui fait entre 12 et 14 mètres carrés. Ils tournent en rond autour de leur lit. Ils ont besoin d'un espace plus grand. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Ils ont besoin de rencontrer quelqu'un. Donc, ce qui est mis en place aujourd'hui par la région Valérie Pécresse, comme dans d'autres régions, d'autres villes, il faut qu'on le mette. Il faut qu'on s'occupe d'eux. Si j'ai pas été détresse tout à l'heure, je vous promets que je voyage, je reviens ici. je trouve que c'est glauquissime ce qui se passe en France.
Glauquissime, alors mais que oui, nous connaissons la même situation que dans d'autres pays, oui.
Oui, mais on n'en peut plus, il faut...
Mais c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est ce sentiment de peur, ce discours aussi peut-être, qui nous inhibe et nous anesthésie?
Je ne sais pas, c'est le sentiment qu'on est toujours un peu en retard. On a été très en avance sur le confinement, et d'ailleurs on l'a démontré. Et puis dès qu'il s'agit, on sait qu'il y a des vaccins, ils sont multiples, ils sont plusieurs marques, et puis on va réaccélérer. Mais tant mieux. Mais pourquoi est-ce qu'on a ralenti au début? Je ne sais pas. On a franchement besoin de sortir de ça. Pour sortir de ça, il faut trouver l'équilibre entre faisons très attention, les restaurateurs, les hôteliers. On est fatigué et pourtant on ne travaille pas. Et cette fatigue, quand on ne travaille pas, si je ne la retrouve pas pour préparer le rebond, on aura perdu
terrible
beaucoup.
Terrible ce que vous dites. On est fatigué, pourtant on ne travaille pas. Ouais. C'est-à-dire que en fait, vous avez besoin de travailler.
Mais parce que le travail donne une estime de soi. Parce que le travail fait qu'on rencontre quelqu'un d'autre. Le travail, c'est parce qu'on retrouve un sourire chez un client. On a besoin de ça pour vivre. On ne peut pas rester chez soi à regarder un écran digital.
Vous avez parlé du vaccin. Est-ce que c'est une incitation au voyage? Est-ce que vous l'avez remarqué dans les différentes destinations?
On l'a remarqué partout. Moi, je rentre du Moyen-Orient. La ville de Dubaï est pleine à 98% de taux d'occupation. Il y a plus de 200 000 chambres d'hôtel. Les restaurants sont pleins. Et pourtant, les gestes barrières sont bien sûr mis en place. Les masques sont portés. C'est une ville qui vit. Et c'est une ville qui est très en avance sur le vaccin. Le Moyen-Orient va être à peu près à 15% de la population. On est à moins de 1% en France. Istanbul est plein. Les Maldives sont pleins. Dès lors que vous avez aujourd'hui une vaccination mise en place, ça repart très très vite.
Donc
je suis très confiant.
Bazin, oui.
Très confiant,
favorable
3-4 mois.
À la mise en place d'un passeport vaccinal pour pouvoir voyager et peut-être accéder à certains lieux comme vos hôtels.
Mais bien sûr, la seule chose sur laquelle
oui,
je fais très attention...
Vous dites oui pour le passeport
non,
vaccinal.
Non, je dis oui pour le passeport parce que c'est très important. Je dis faisons très attention. Tant qu'il n'y a pas un nombre minimum de gens vaccinés, n'allons pas en plus donner un passeport aux faibles personnes qui sont vaccinées parce que pour les autres, c'est dégueulasse. Donc il y a une séquence à respecter. Mais bien sûr que je suis pour le passeport vaccinal.
Donc en respectant la séquence et évidemment en faisant attention qu'il n'y ait pas de discrimination entre les populations, ça pourrait permettre, selon vous, d'accueillir de nouveau les touristes munis de ce passeport-là.
Ça va rassurer tout le monde. On a besoin de rassurer les gouvernements, les autorités, nos directeurs d'hôtel, nos propriétaires, les clients qui savent que ce soit à côté d'eux. Mais c'est la même chose quand on a besoin de se faire vacciner pour la fièvre jaune pour aller en Afrique. On connaît ça les uns les autres, on l'a accepté depuis des décennies.
Le passeport sanitaire.
Mais oui. Bien sûr que ça existe.
Vous voyagez énormément dans différentes régions du monde. Alors la Chine, je crois que ce n'est pas encore possible. Mais quand vous voyez qu'un an, presque jour pour jour, après l'annonce du premier décès lié au Covid, la Chine, c'est la deuxième économie mondiale qui bat des records aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vous dites?
Respect. Respect. On peut avoir plein d'avis divergents sur le gouvernement et autres, mais c'est pas le sujet. C'est la taille de cette économie, l'intelligence des acteurs économiques, le système de santé, leur rigidité à imposer un certain nombre de contraintes, l'acceptation par la population fait que aujourd'hui cette économie elle reste positive et l'hôtellerie est repartie plus forte que celle qui préexistait avant le Covid.
Mais comment moi, il y a une phrase que j'ai retenue que vous citez souvent, c'est celle de Bertrand Piccard, c'est un aéronaute suisse, qui dit « une crise, si vous l'acceptez, elle devient une aventure ».
C'est le cas, cette crise est une aventure. Mais comme toute aventure, à un moment donné, elle doit se terminer. Une aventure, il y a un côté positif dedans. Donc moi, je cherche le côté positif, mais j'ai beaucoup de chance, moi, parce que je suis à la tête d'une grande société qui a des moyens financiers et qui, heureusement, a des pays qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Donc la diversification fait que ça marche. Mais l'aventure que je vis n'est pas la même qu'un étudiant qui est dans une chambre de 12 mètres carrés. Donc à chacun de vivre la sienne. La mienne est probablement plus facile.
Sébastien Bazin, PDG du premier groupe hôtelier d'Europe. Et puis, évidemment, je pose la dernière question à l'ancien président du Paris Saint-Germain. C'est presque un rituel quand vous venez ici sur Europe 1. Le monde du football est en pleine tourmente autour des droits TV, la Ligue 1 et la décision de Canal+, un nouvel appel d'offres. Est-ce que la Ligue 1, Sébastien Bazin, ne s'est pas vue trop belle?
Probablement. Maintenant, il y a eu un appel d'offres. Quelqu'un a payé plus cher. Peut-être fallait-il avoir des garanties un peu plus solides.
Mais elle est devenue trop chère pour ce qu'elle est?
Je ne crois pas du tout. Alors là, franchement, quand vous voyagez, quand vous voyez l'attrait du football à l'échelle internationale, en ce compris en Chine, en Corée, en Brésil, non, je pense que l'attrait est toujours là. Il est probablement encore plus fort aujourd'hui qu'il n'était il y a 3-4 ans. Non, c'est un vrai média et il y a une vraie demande pour les 7 milliards de gens sur cette planète.
Alors vivement qu'on retrouve aussi les matchs et qu'on soit présent dans les
tribunes.
Il n'y
a rien de plus atroce que d'être dans un stade dans lequel c'est vide pour assister à un match. C'est juste atroce.
Bon, on espère, ce jour où la crise, on en sortira collectivement.
Ça va revenir, ouais. Voilà, donnez-vous 2-3 mois, ça va revenir.
On l'espère. Merci Sébastien Bazin. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h27.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'info, Hélène Zélani, la météo, Laurent Cabrol dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Les victimes d'inceste prennent désormais la parole sur les réseaux sociaux. C'est l'effet du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande. Elles sont des centaines à partager leur vécu et leur douleur sous le hashtag MeTooInceste. Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, invité d'Europe 1 ce matin, souhaite une évolution de la loi sur les relations adultes-enfants.
Nous devons trouver les moyens juridiques pour criminaliser les relations sexuelles entre un adulte et un enfant de moins de 15 ans. Parce qu'effectivement, il y a une asymétrie entre un enfant, en termes de développement affectif, émotionnel, et un adulte. Voilà. Donc c'est des choses sur lesquelles nous travaillons en ce moment, sur lesquelles je pense que nous allons prendre des décisions. La libération de la parole qui a cours aujourd'hui est formidable, il faut l'encourager, il faut le pérenniser, il faut s'assurer que cela continue. Il y a encore beaucoup de sujets qui sont complètement invisibilisés aujourd'hui. On n'est qu'au début de l'histoire. On parle de libération de la parole. Vous savez que les enfants en situation de handicap sont plus victimes, comme les femmes d'ailleurs, des violences, notamment des violences sexuelles. Comment vous libérez la parole d'un enfant avec autisme qui n'est pas verbal? Comment vous libérez la parole d'un enfant avec déficience mentale? Voilà, tous ces sujets-là, ils sont devant nous.
Adrien Taquet, qui était votre invité, Mathieu, à 7h40. Jean Castex promet un changement de braquet dans la campagne de vaccination. Pour l'instant, peu moins de 500 000 personnes vaccinées. Le Premier ministre annonce 430 000 injections supplémentaires rien que dans les EHPAD d'ici deux semaines. Attention aux masques en tissu artisanaux. Selon le Haut Conseil à la Santé publique, ils ne sont pas assez filtrants, surtout face à l'émergence du variant britannique. En plus de ce variant, du sud-africain et du brésilien, en voilà peut-être un nouveau, le californien. Les chiffres sont de plus en plus inquiétant dans cet État américain. À Los Angeles, Benoît Clerc.
Est-on en train d'assister à l'émergence d'une nouvelle souche californienne du Covid ? Eh bien, c'est la question que se posent les journaux ici avec la découverte d'une mutation du virus qui pourrait rapidement devenir majoritaire dans l'Ouest américain. Car la Californie est en train de subir une nouvelle vague violente dans l'épidémie avec plus de 500 nouveaux morts chaque jour. Cette mutation concerne la protéine S du virus, la clé qu'il utilise pour infecter nos cellules. C'est elle qui pourrait ainsi favoriser une plus grande contagiosité. Cela apporterait une réponse à une interrogation nationale ici. Après avoir été similaire jusqu'à la fin novembre, les courbes des nouvelles infections en Floride et en Californie ont brutalement divergé en décembre, au détriment de cette dernière, qui a alors connu une explosion de cas. Ce nouveau variant pourrait en être aussi le responsable. Pourrait, car si les données épidémiques appuient fortement cette hypothèse, il reste cependant aux scientifiques à la confirmer définitivement en laboratoire.
Benoît Clerc, correspondant d'Europe 1 en Californie. Et en Europe, faudra-t-il bientôt un certificat de vaccination pour traverser les frontières ? La Commission présente ses recommandations cet après-midi. Les chefs d'État des 27 en discuteront jeudi. Un an et demi après le suicide d'Evaël, une collégienne de 11 ans, trois adolescents de 13 ans mis en examen pour harcèlement dans le Val d'Oise. Malgré leur jeune âge, la juge a estimé qu'il y avait suffisamment de charges contre eux. Édouard Balladur, devant la Cour de justice de la République, l'ancien Premier ministre est jugé à partir d'aujourd'hui pour le financement de sa campagne présidentielle de 1995. Âgé de 91 ans, il devrait être présent pour l'ouverture de son procès. Emmanuel Macron est lui attendu aujourd'hui à bord d'une frégate à Brest. Il va présenter ses vœux aux armées. Le président évoquera la formation et l'égalité des chances et il profitera de la cérémonie pour parler aussi des grands défis militaires de 2021, notamment de l'opération Barkhane au Sahel. Et puis savez-vous combien les ados reçoivent d'argent de poche en moyenne ? Selon le baromètre annuel L'Argent et les adolescents, que dévoile le Parisien ce matin, c'est 30 euros par mois, 3 euros de moins qu'en 2019. Évidemment, le chiffre évolue avec l'âge. De 18 euros à 10-12 ans jusqu'à 44 euros à 17-18 ans. Étonnamment, les filles reçoivent moins que les garçons, 28 contre 32 euros.
J'ai vu ça, je ne comprends pas.
Alors, bah moi non plus.
Alors c'est pas juste
non,
dans la vie professionnelle.
Non,
mais qu'on soit bien d'accord, dans la vie professionnelle, ça n'est pas juste. Mais on est capable d'expliquer les différences salariales hommes-femmes et puis ensuite de travailler pour les réduire. Mais là, sur l'argent de poche, je ne comprends pas. 28 euros pour les jeunes filles et 32 pour les garçons. Ouais. Ça dit, moi j'ai surtout des filles. Faire des économies. Merci Hélène Zélène. Il est 8h34 sur Europe 1. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Allez, je vais résumer quelques informations que je vous ai distillées depuis ce matin, chers amis. Je vous ai parlé d'abord des températures. L'amplitude est énorme entre ce matin et cet après-midi. Alors n'ayez crainte des gelées qui règnent en ce moment. Un exemple, il fait moins 2 à Lyon. Il en fera plus 10 cet après-midi. Vous voyez que l'amplitude sera vraiment énorme. Donc c'est de la douceur qui revient, mais elle ne revient pas pour longtemps. Ça, c'est la deuxième information. Elle sera là jusqu'à samedi, dimanche, et ensuite le froid va se réinstaller. Mais nous allons vraiment changer de temps. C'est-à-dire que nous allons maintenant passer en régime d'ouest ou de sud, qui sont des régimes violents, avec des perturbations qui vont se succéder, avec beaucoup de vent, et cette douceur qui n'en sera pas une, cette tempête qui n'en sera pas une, tout ceci va nous conduire vers une météo qui risque de nous de provoquer des inondations. Ouais, j'ai lâché le mot, j'hésite à le lâcher, mais enfin pourquoi pas ? Parce que vraiment il va beaucoup pleuvoir dans les 5-10 jours qui viennent. Les températures pour aujourd'hui entre 9 et 13 degrés. Les pluies sont surtout présentes ce matin sur le nord Picardie, les Ardennes, la Champagne. Elles, sur Paris, elles ne seront plus là en fin de matinée. Il y aura encore un petit peu de pluie cet après-midi sur la Lorraine et les Vosges. Mais partout ailleurs, c'est-à-dire sur une grande moitié sud, ce sera un temps souvent éclairci.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. 8h35, vous restez bien avec nous, on prend soin les uns des autres. Et dans un instant, les vertus du don avec le docteur Jimmy Mohamed. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1. Prenons soin les uns des autres, notre santé avec Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ce matin, à l'occasion de la 32e opération des pièces jaunes, vous avez souhaité nous parler des effets du don sur notre cerveau. Donner rendrait tout simplement heureux.
Oui, c'est vrai que quand on reçoit des cadeaux, ça fait aussi plaisir. Mais imaginez Mathieu, si tous les jours vous mangez votre plat préféré, ou si vous regardez tous les soirs votre film préféré, eh bien, vous allez apprécier de moins en moins ces petits plaisir du bonheur quotidien. C'est la même chose chez les enfants. À force de leur donner des cadeaux, eh bien, ils sont de moins en moins satisfaits. En tout cas, ce bonheur est éphémère. À l'inverse, il y a bien une chose qui ne s'épuise pas, c'est le plaisir de donner. Pour ça, on a réalisé plein d'expériences assez rigolotes. Alors, dans une expérience, on a donné à une centaine d'étudiants $5 par jour, pendant 5 jours. Et ils avaient deux possibilités. La première, c'est de les utiliser pour eux, s'acheter à manger ou peu importe. Et ou la deuxième, c'est de la donner à quelqu'un qui serait dans le besoin. Eh bien, ceux qui utilisaient l'argent pour eux-mêmes, le premier jour, ils sont contents, le deuxième aussi, et puis au fur et à mesure, ce plaisir diminue. A l'inverse, ceux qui vont donner systématiquement ces $5, eh bien, ont un bonheur, un plaisir qui reste constant. Et donc, en fait, le bonheur des gens ne diminue jamais lorsqu'ils font un cadeau.
Est-ce qu'on a une explication scientifique, Jimmy ? Je veux dire, est-ce que bonheur et générosité sont vraiment liés ?
Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire que lorsqu'on veut donner, on cherche un peu à vivre une situation unique. On fait un don pour essayer de contribuer à notre réputation, pour renforcer le lien social, essayer de favoriser la cohésion.
C'est pas forcément désintéressé.
Exactement, ce serait pas forcément désintéressé. D'autres disent qu'on pourrait attendre quelque chose en retour. Et bien pour ça, on a mené de nouvelles expériences. Encore une fois, assez rigolotes. On a pris des jeunes de 20 ans. On leur a donné $200. On a augmenté un peu la cagnotte. Et ils avaient trois possibilités. La première, c'est encore une fois de le donner à des personnes qui sont dans le besoin. La deuxième possibilité, c'est de le donner à une œuvre caritative. Et puis la troisième, c'est de l'utiliser pour eux-mêmes. Et puis ensuite, lorsqu'ils prenaient ces décisions, à savoir, est-ce que je l'utilise pour moi, est-ce que je le donne, ou est-ce que je vais le donner à une association, on les a mis dans des IRM cérébrales fonctionnelles pour voir comment leur cerveau fonctionne. Et bien, on s'est rendu compte que ceux qui vont donner pour une œuvre ou pour des personnes qui sont dans le besoin vont avoir deux zones dans le cerveau qui vont s'activer. La zone responsable de la générosité et celle du bonheur. Les deux sont liés, ça entraîne le circuit de la récompense. Et à l'inverse, ceux qui vont donner vont avoir une structure cérébrale qu'on appelle l'amygdale, qui est responsable du stress et de la peur, qui va s'éteindre. Ça veut donc dire que pour être en bonne santé, eh bien, il faut donner. Donc on vous invite ce matin, si vous voulez, si vous le pouvez, à faire un don pour les pièces jaunes qui est dématérialisé cette année.
Vous dites je garde ou je donne cette réflexion pendant que vous passez l'IRM, donnez. Si vous voulez, je m'en occupe et puis vous réfléchissez tranquillement. C'est pour votre bonheur, c'est pour votre bien-être, c'est pour le circuit de la récompense.
Merci de prendre soin de moi, Mathieu.
Le docteur Jimmy Mohamed tous les matins sur Europe 1, 8h40. Notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour ma chère Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et Fanny, ce matin, vous attirez notre attention sur une nouvelle application qui nous permet de nous renseigner sur le taux de radon dans la commune où nous nous trouvons.
Oui, et j'en profite, Mathieu, pour vous rappeler que le radon est un gaz radioactif incolore et inodore et qu'il s'agit d'une source établie de cancer du poumon. D'origine naturelle, il est présent un petit peu partout sur la planète et en France métropolitaine comme en Outre-mer. Il y a certains grands bassins dans lesquels il vaut mieux être prudent. C'est un gaz dont la présence en surface est liée à la teneur en uranium des sols profonds. Et plus cette teneur est élevée, bien plus le potentiel radon est élevé aussi. Le problème, c'est que le radon qui remonte à la surface peut séjourner dans votre maison et vous pouvez y être exposé durablement sans vous en rendre compte.
Ce qui veut dire que certains d'entre nous vivent sur des bombes à retardement ?
Alors, pas de psychose. Ce matin, moi-même en Auvergne, je peux vous dire que ma maison est fortement exposée au radon. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a certains facteurs géologiques, comme les failles sismiques, l'activité minière ou les sources hydrothermales, qui facilitent le transfert du radon en surface. Une cartographie a donc été dressée en fonction des teneurs en uranium des sols et des particularités géologiques. Cette carte regroupe trois catégories. Premièrement, les zones de potentiel radon de catégorie 1, où là, en fait, il y a peu de radon dans les sols et donc peu de chances qu'il remonte en surface, soit la grande majorité, soyez rassurés, de la France métropolitaine. Viennent ensuite les zones où il y a peu de radon dans les sols mais quelques chances qu'il remonte. Et enfin, la catégorie 3 où la teneur en radon et sa présence à la surface sont élevées. Il s'agit là majoritairement des zones volcaniques ou des massifs granitiques comme chez moi en Auvergne mais aussi en Guyane, en Polynésie ou à Mayotte.
Alors vous nous dites, Fanny, que cette cartographie est désormais accessible?
Oui, grâce à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui vient de mettre en ligne son application Radon et radioactivité. Elle vous précise votre potentiel d'exposition au radon en fonction notamment de la carte qui référence les zones de potentiel 1 à 3, mais aussi en fonction de vos déplacements par avion et la quantité de fruits de mer que vous consommez, car oui, il y a du radon dans les crustacés. Si vous apprenez par le biais de ce test que le taux de radon dans votre espace de vie dépasse le seuil retenu par l'OMS, vous pouvez réagir en renforçant l'étanchéité de la couche qui se situe entre le sol et votre maison. Et la plupart du temps, il s'agit vraiment de petites fissures dans les sols, notamment à cause des passages de canalisation. Et deuxièmement, et ça c'est très important, aérer votre intérieur en ouvrant quotidiennement les fenêtres. Un bon geste, d'ailleurs, radon ou pas radon, quand on sait que l'air des maisons est souvent plus vicié que l'air extérieur.
Merci Fanny Agostini. Notre planète tous les matins. Et dans la foulée, vous le savez, nous retrouvons Nicolas Canteloup et Julie qui s'installent. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas. J'allais dire Sarkozy, on en parle.
Je vous Nicolas laisse, débrouillez-vous avec lui.
Oui, bonjour Julie.
Bon, allez-y Mathieu.
Comprenez-vous. Oui, bienvenue sur Europe 1. Europe 1. L'info du jour, c'est Olivier Véran, l'homme au masque et Lacoste, qui a annoncé aux personnes âgées de plus de 75 ans qu'il faudra attendre un peu pour se faire vacciner. Vous l'avez compris. Du coup, on comprend mieux la stratégie du gouvernement. Plus on fait patienter, en effet, les vieux, moins il y en aura, au final, à vacciner.
C'est ça, quel calcul, vraiment.
C'est bien trouvé. Et n'empêche, bref. L'autre info, c'est toujours le gouvernement qui tente d'aider les étudiants en détresse à cause de l'absence de cours. Et c'est pas étonnant. C'est vrai qu'il n'y a plus d'avenir radieux aujourd'hui. Tu sais que si tu fais Sciences Po ou l'ENA, tu deviens quoi? Tu vas devenir Jean Castex. Donc ça peut donner envie de sauter par la fenêtre. On comprend les jeunes. Et puis, l'info qu'on ne voulait pas, c'est Jean-Pierre Bacri qui nous a quittés à l'âge de 69 ans. Un air de famille, cuisine et dépendance Didier, le goût des autres, le sens de la fête, j'en passe, et des meilleurs. C'était le temps des comédies drôles. Et c'est rare les comédies drôles. Drôle et intelligente. Il était l'éternel râleur, le bougon magnifique, le chieur sublime, bref, la France, quoi. Il était la France. Et cette info me donne envie de faire encore plus la gueule que Bacri dans toute sa filmographie réunie. Allez,
c'est dur.
C'est quoi ça?
Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Julie, vous pouvez fermer la porte du studio, on entend le sèche-cheveux de Philippe Vandel qui finit son brushing avant de
Merci. Bon allez, je vais fermer la porte alors. L'interview de Jack Lang par Sonia Mabrouk hier a beaucoup fait parler. Interrogé pour savoir si les rumeurs autour des crimes d'Olivier Duhamel lui étaient arrivées aux oreilles, Jack Lang a répondu « Je ne fréquente pas ces milieux, je ne participe pas à des mondanités ».
Je ne participe pas des mondanités. Oui, bonjour, chère Julie.
Hey,
Nelson Montfort, en direct de l'Institut du Monde Arabe, qui est, vous le savez, dirigé par Jack Lang. Lang qui vient de remporter le championnat national de prenage de gens pour des cons avec ce programme libre intitulé Jack Lang, l'ennemi des non-mondanités. Il a remporté, tenez-vous bien, un 9,98 à l'épreuve du foutage de gueule sur 3 minutes.
Ouais, c'est vrai qu'on a un peu tiqué en entendant ça.
Oui, Jack Lang, bien sûr, bien sûr, nous savons, c'est l'homme qui préfère un petit plateau télé devant Thalassa plutôt que d'aller à l'inauguration d'une galerie d'art. Jack Lang, c'est quoi? C'est les barbecues avec Monique en claquette, un Bob Ricard et une Cronenbourg en écoutant les réchansons. Jack Lang, célèbre pour ses week-ends en solo sur les bords de Marne avec un siège pliant, un petit chapeau et une canne à pêche. C'est bien simple.
On l'imagine.
À Paris, pendant 40 ans, on s'est demandé qui était ce provincial solitaire qui s'est semblait s'ennuyer au ministère de la Culture.
Oui, bon, allez, Nelson, ça va, on a compris. Oh là là. Bon.
Mais voilà que Jack Lang sort de l'Institut du Monde Arabe. Jack, s'il vous plaît, Jack. Jack, tenez votre trophée par... Votre trophée, je vous le remets pour votre prestation d'hier.
Non, voilà. Écoutez, ça suffit, allons. Je ne savais rien, je vous dis, pour Olivier Duhamel. Je n'ai aucune complaisance avec tout cela. Ce n'est pas parce que j'ai fréquenté Olivier Duhamel, défendu Polanski, défendu Woody Allen, trouvé, oui, Jeffrey Epstein, charmant, ou signé une pétition pour décriminaliser la pédophilie, qu'on peut me soupçonner de la moindre complaisance avec toute forme d'agression sexuelle. Allons, basta!
Oh, il est fort, formidable, très vraiment. C'est là qu'on reconnaît des grands champions. Qui pourra surpasser ce niveau de foutage de gueule? La barre est très haute, ma chère Julie, et bon courage à Sonia pour les suivants.
Merci Nelson. Jean Castex était l'invité de C'est à vous, présenté par Anne-Elisabeth Lemoine. Bonjour Monsieur le Premier Ministre.
Oui,
c'est la première. Bonjour, c'est la première fois qu'on vous voit dans ce genre d'émission.
Eh bien oui, voilà, je suis péopile, pardon, merci de m'aider, people. Je suis un pleeple,
repeat
un
after
pleeple,
me.
Tout à fait, et voilà, pleeple, très, très sympathique, cette Anne-Elisabeth Lemoine, et je me retrouve en elle, parce que quand elle a pris la tête de l'émission, tout le monde a dit « Oui, elle est nulle, elle va jamais y arriver, et au final, elle est super !» Et moi, quand j'ai remplacé Edouard Philippe, tout le monde a dit « Oui, il est nul, il va jamais y arriver, au final !» Eh bien, ça prend un peu plus de temps avant de me trouver super. Voilà.
Alors justement, vous avez dit « Nous sommes des diesels ».
Voilà, nous sommes en route.
Oui.
On fonce vers le succès, mais lentement. Et sur les chemins, nous allons lentement sur les chemins de la vaccination à toute allure, tel le pilote Sébastien Loeb au Dakar.
Sébastien Loeb, il a perdu deux fois dans le désert et il a 2 heures de retard sur les meilleurs.
Voilà, c'est ce que je vous dis à l'instant, Madame Julie. Et on est Sébastien Loeb, paumé et en retard.
Alors, les candidats au vaccin doivent remplir un questionnaire type avec cette question. Êtes-vous enceinte? Non, mais est-ce que c'est indispensable pour les plus de 75 ans, enfin?
Oui, Roche, voilà, et votre esprit. Non, mais on n'a quand même pas posé la question, êtes-vous enceinte au papy? Et on est couillons, mais qu'à moitié. C'est la bonne nouvelle.
On est rassurés.
Je pense que c'est celle qu'il faut souligner.
Très rassuré. Merci Jean Castex. Yeah. Joe Biden entrera officiellement à la Maison-Blanche demain, mais on a appris ce week-end qu'il avait déjà appelé le président Macron. Une conversation qui a duré 10 minutes environ, et on l'a en exclusivité. Écoutez.
Hello, Monsieur le Président.
Ah! Bonjour, bonjour à toutes et à vous. Ravi de vous parler au téléphone, cher Joe.
Tout est à vous. Bon.
Non, je dis ravi de vous parler au téléphone, cher Joe.
Merci, Monsieur Mitterrand.
Mitterrand.
Non, Macron. Macron, alors dites-moi, cher Joe, maintenant que Donald va se barrer, on va pouvoir enfin travailler main dans la main et régler cette histoire de taxes pour les GAFA.
Comment? Ah.
Non, je dis, il faut payer des taxes.
Vous voulez faire un pax? Pourquoi vous n'êtes pas marié avec Brigitte?
Non, je parle des impôts que Trump ne voulait pas nous payer pour Google.
Ouais, vous avez raison, Trump était un Google.
Non, Google, oh là là. Google, on a les taxes en France.
Oui, bien sûr, j'ai pris les taxis en France. Je suis à la Moulin Rouge, à Tour Eiffel. J'adore la France.
Oh là là.
Oui, bon, ok, il m'a saoulé, c'est bon. Allez, on se reparle plus tard.
Oui, bye bye, Monsieur Girac.
Oula, c'est pas gagné. Hein. Merci à tous les deux. Jean-Pierre Bacri nous a donc quittés, mais comme la radio, c'est parfois un petit peu magique. Nous sommes en liaison avec le paradis. Jean-Pierre ?
Ouais. Allô.
Oui. Tiens,
c'est quoi cet écho de merde là? Ouais, salut Julie, salut Mathieu. Oui, oui, je suis bien arrivé, c'est gentil, merci. Ça me saoule déjà, par contre, on sent merde ici. Il y a que des gens chiants là, tout propre là, avec des espèces de toges blanches là, la con là, qui joue de la harpe. En plus, je déteste la harpe, ces instruments à cordes à la con, tu peux même pas rentrer dans une valise. Là, c'est... En même temps, sur Terre, c'est vrai que c'était pas mieux. Avec ces putains de virus partout, là, les problèmes factures, des cons en voiture, voilà. Je suis désolé de vous avoir laissé, vous, sur Terre avec toute cette merde là, mais. Ah putain, en ce moment, c'est vrai que vous ne vivez pas des vraies, vraies bonnes journées, hein, on ne va pas se mentir.
C'est sûr que c'est pénible, hein, ces derniers temps, on en a marre, oh là là.
Et voilà, vous en avez marre, voilà. Quelque part, je suis content de voir que vous perpétuez un peu mon héritage. C'est moi qui suis parti, finalement, c'est vous qui râlez. Et quelque part, tant que vous râlerez, je serai toujours un peu là avec vous.
Eh ben voilà, salut Jean-Pierre.
Bravo, et ça c'est un hommage aussi. Je vous l'avais promis, sans trop avoir échangé avec Nicolas Cantelou, ni avec d'ailleurs, saluons Philippe Cavrivière, Laurent Vassilion, Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas, et je me suis dit tiens, on aura du Jean-Pierre Bacri pour terminer la matinale. Un hommage, celui de Nicolas Cantelou, la revue de presse que vous avez aimée, vous voulez réécouter, eh bien c'est sur europe1.fr. Nicolas Cantelou et Julie, j'ai déjà salué les auteurs. 8h55, dans un instant on va retrouver Philippe Vandel pour Culture Média. C'est la matinée qui continue sur Europe 1. On revient dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 8h57 sur Europe 1 et nous sommes avec Philippe Vandel qui va prendre la suite. Culture Média sur Europe 1, 9h-11h, c'est la matinée qui continue. Bonjour mon cher Philippe.
Bonjour Mathieu, notre info média du jour dans l'émission. On va d'abord s'intéresser à ces journalistes qui enquêtent sur la mafia. Ils sont souvent menacés, certains d'entre eux vivent sous protection policière. Comment obtenir des infos sur un milieu réputé très silencieux et très dangereux, le mot est faible? Élément de réponse avec le grand reporter et spécialiste du journaliste d'investigation, Frédéric Ploquin. Au sommaire également, cuisine, road trip et bonne rigolade. C'est ce qu'il y a au programme de...
C'est mes vacances.
Comment?
C'est mes vacances.
Avec du bon pain et des croissants. Parce que c'est la meilleure boulangerie de France qui a démarré hier sur M6. C'est la 8e saison. La 7e saison avait cartonné. On sera avec les jurés de l'émission, le cuisinier Norbert Tarrère et le meilleur ouvrier de France, le boulanger Bruno Cormeret. Et puis vous vous souvenez du Morning Live avec Michael Youn?
Bien sûr.
Ça revient? Mais pas le matin, mais le soir. Ça s'appelle la Morning Night. Nous serons avec Michael Youn.
Il y avait une première.
Ça s'appelle quand même le Morning. Il y a le même principe. Il retrouve même, il s'excuse d'avoir réveillé des gens avec son porte-voix. Mais avec le porte-voix, il fait encore plus de bruit pour s'excuser qu'avant.
Avant, il les réveillait très tôt le matin. C'était la matinale d'M6 à l'époque. C'était
exactement.
Michael Youn, on a beaucoup ri.
Ouais.
Et maintenant, il les réveille le soir.
Ouais.
Les mêmes.
Mais il est complètement dingue. On voit des séquences absolument hilarantes. Et vous allez voir une surprise. Il est à la clinique des gens du showbiz, ceux qui sont devenus complètement toc-toc à force de passer à la télé, elle est dirigée par Thierry Ardisson.
Il y a une clinique des gens du showbiz?
Mais non, c'est une blague.
Moi, je
ne
comprenais plus rien. Je me disais, mais ça existe ça? On
non,
va s'inscrire.
Ça n'existe pas, mais c'est réellement Thierry Ardisson qui la joue.
Cela dit, je vais me permettre, juste entre Norbert Tarrère et Michael Youn, si vous ne finissez pas à la clinique du showbiz à la fin de l'émission,
ouais,
c'est que je n'y connais rien. 9h-11h, la matinée qui continue.
Exactement.
Sur Europe 1.
Je ne l'ai pas dit, il sera notre invité, Michael Youn.
Ah oui, c'était quand même l'idée. C'était
oui,
quand même l'idée
c'est
de parler des de Philippe Vandel, Culture Média, 9h-11h avec Philippe. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je reviens demain matin.
Ouais.
A priori, je touche du bois, tout va bien. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.